Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Antoine, récemment, j'ai mis à l'essai à tour de rôle les Volvo XC40 Recharge, donc la version électrique du petit VUS Volvo, et aussi le C40. Tu avais assisté au lancement de ce modèle-là.
Ouais.
Et à ce moment-là, on était arrivé à la conclusion que le C40 au Québec n'était pas plus intéressant qu'il ne le fallait par rapport au XC40, étant donné qu'il n'était pas éligible aux subventions parce que son prix d'entrée était plus élevé, mais on le trouvait sympathique parce que sa silhouette était différente,
mais ça n'enlève rien au produit, c'est juste que la
stratégie... Mais sur le plan financier, c'était pas justifiable pour un consommateur d'opter pour un C40. Son gros avantage à son lancement, c'est qu'il était disponible comparativement au XC40 pour lequel on avait des délais, mais là quand est venu le temps de préparer le présent segment, on a regardé la gamme actualisée chez Volvo et soudainement, on présente une version... En fait, au moment du lancement, on n'avait qu'une seule version du C40 et là, pour 2023, on aura... trois versions du C40.
Comme le XC40.
Exactement. Donc, une version Core, une version Plus et une version Ultimate. Donc, il y aura quelques centaines de dollars là, d'écart entre les versions équivalentes pour les deux modèles. Donc, on peut comprendre et déduire que le C40 sera lui aussi éligible aux subventions.
Voilà.
Mais pas nécessairement pour la version Ultimate. C'est ce que j'ai bien compris.
Actuellement, si tu te procures un XC40, les modèles Core et les modèles Plus sont éligibles aux 7000 du provincial, aux 5000 du fédéral. Dans le cas de la version Ultimate, parce que son prix dépasse de plus de 10 000 le seuil des 60 000, ce n'est que le crédit du Québec qui s'applique, donc 7 000 $. On perd le crédit du fédéral avec la version la plus luxueuse. Donc, ça serait la même chose pour le C40. Pour le moment, si on va sur le site de Transport Canada, sur le site Roulez Vert, il n'y a pas d'indication encore. Ça n'a pas été mis à jour.
Donc, il y a comme une contradiction entre le site du manufacturier et les sites gouvernementaux. Ça doit s'être passé dans les derniers jours.
C'est-à-dire que le site du manufacturier n'applique pas encore
les
crédits.
Non. Mais quand on fait les calculs de notre côté, on comprend que ça s'en vient. Là.
Voilà. Et là, moi, j'ai pris le téléphone. J'ai téléphoné à un représentant chez un concessionnaire Volvo pour y voir un peu plus clair. Puis il dit, c'est une question de semaine avant qu'on se fasse confirmer les crédits puis tout ça. Mais de toute façon, pour le moment, ce ne sont que des commandes parce que les 2023 ne sont pas encore arrivés.
Bien entendu.
Et là, bien sûr, tu me vois venir, j'ai posé la question. C'est quoi les délais?
Oui.
Parce que...
c'est la question de l'heure.
Alors, il a commencé par me dire que si tu veux un XC40, c'est facilement 18 mois à 2 ans.
Wow!
Si tu veux un C40 et si tu commandes un C40 demain matin et il s'attend à ce que la version Plus soit la plus commandée.
OK. Parce que c'est la version la plus équipée qui peut être éligible aux subventions. Pourra être éligible aux subventions.
Aussi parce que, comme il me mentionnait, si tu prends une version Ultimate, c'est parce que tu vas avoir le régulateur de vitesse intelligent avec conduite semi-autonome. Tu vas avoir le gros système audio, tout livré de série. Mais il y a certaines des options qui sont dans la version Ultimate, que tu peux obtenir en option séparée sur un modèle Plus.
Okay.
Ce qui fait que tu vas perdre 2-3 trucs, mais qui ne justifie certainement pas un écart de
presque 4 000 entre la version Plus et la version Ultimate.
Oui, mais plus le 5 000 que tu
perds. Oui, c'est ça, exactement.
Plus le 5 000 que tu perds.
Donc, au final, tu le payes très cher.
Donc, si tu commandes un C40 demain matin, on parle d'à peu près 5, 6, 7 mois de délai.
Et pourquoi les gens qui ont commandé un XC40, on ne tente pas justement de les transférer vers un C40?
J'ai l'impression que le XC40, d'abord...
Peut-être un peu plus pratique, là?
Il est surtout peut-être un peu plus populaire à l'échelle mondiale. Et on a concentré les énergies un peu ailleurs. Puis c'est évident que le C40, c'est un véhicule qui a été davantage développé pour notre marché, un peu plus.
Peut-être.
On voulait séduire les Américains avec un look plus sympathique.
Oui. Et moi, ça me plaît, là, ce look-là.
Puis il ne faut pas oublier un truc. Le C40, c'est le premier véhicule 100% dédié de chez électrique.
Ils me font rire avec cette phrase-là, parce que c'est une déclinaison d'un véhicule qui était initialement prévu pour être alimenté à l'essence. Là. Mais oui, tu parlais d'une bouille sympathique. Moi, je trouve ça joli.
Moi, je prendrais ça avant un XC40, personnellement, même si tu perds un peu en volume cargo.
Et je ne suis pas un adepte des VUS coupés comme ça. Tu sais, un Cayenne ou un Cayenne coupé, je vais préférer le Cayenne régulier. X3, X4, je vais préférer le X3. Mais dans le cas du C40, ça me plaît. Un mot sur la conduite. Là, je sais qu'on a passé...
MDX, ZDX.
Sans façon. un mot sur la conduite. Dans les deux cas, j'ai trouvé que les suspensions étaient complètement débordées avec ce véhicule-là. Ça rend l'expérience inconfortable.
Moi, je vais
te corriger. Ça brasse énormément, surtout à l'avant.
Mais je vais te corriger un truc.
Quelques milliers de kilomètres au compteur, puis tu as l'impression que c'est tout déboîté, même si ça ne l'est pas. Effectivement, des jantes de, je sais pas, 21 pouces.
Le problème est là.
Il n'y a pas de pneus après ça. C'est un vrai problème.
Tout le problème est là. Et si tu prends une version Core ou une version Plus, tu as des roues plus petites, tu as des flancs qui sont plus grands et ça change complètement la conduite.
Parce que sinon, excuse-moi, là, mais c'est pas conduisable.
Ben, il n'y a pas de flanc. Tu as un véhicule qui est lourd avec un empattement qui est quand même assez court, puis tu n'as pas de flanc de pneus. Ouais. C'est sûr que ça cogne dur. La combinaison est catastrophique. Mais mets-toi un peu plus de viande au niveau des pneus, puis tu viens de régler ton problème.
Ouais.
Parce que le véhicule est très solide, le véhicule se conduit bien, il y a une super belle plage de puissance, l'équilibre des masses est intéressant aussi, parce que tu as le même moteur à l'avant et à l'arrière avec une masse au centre.
Et donc, c'est très maniable comme véhicule, la direction.
Le cercle de braquage est court.
Donc c'est relativement plaisant à conduire, mais il y a ces espèces de cognements qui sont toujours présents à l'avant, puis c'est un peu pas mal dérangeant.
Cognement que j'ai constaté aussi sur la voiture que je conduis cette semaine.
Moi, de la transition, voilà. C'est dit.
Bon, alors, cette semaine, je conduis une voiture que je trouve absolument pas belle.
Bon.
Je ne comprends pas la visée de Mercedes avec ce produit-là.
Est-ce que tu peux nommer le modèle?
Oui, c'est une AMG GT 53. Donc, rien à voir avec le coupé AMG GT. Là. On oublie ça. Là. On tente peut-être de reprendre les lignes du coupé AMG GT dans une certaine forme, mais il y a beaucoup trop de rondeur. Puis, je suis pas capable de positionner ça. Moi, donne-moi le choix entre ça et une classe E, je me pose même pas la question.
Et même une CLS, est-ce que c'est toujours offert, ça?
Oui, la CLS est toujours offerte. Alors,
qui est un coupé à quatre portes aussi.
Oui, c'est ça.
Cannibalise peut-être un peu à l'interne là, chez Mercedes.
Oui, mais en même temps, rendu dans ces sphères-là, en termes de prix, tu peux en offrir tant que tu voudras. C'est toujours payant. C'est une voiture de 155 000 $. Ce qui est magnifique, par contre, c'est l'habitacle et la couleur de ce véhicule-là.
C'est-à-dire?
Qui est un prune foncé, là, j'ai pas le code exact, mais qui est un prune foncé avec un niveau de métallique dedans qui est exceptionnel. Je me suis amusé à prendre un ruban à mesurer et à regarder la profondeur de la peinture. Parce que la qualité du fini est telle que tu es capable d'avoir une profondeur dans la peinture que tu verras pas ailleurs. Okay. Et ça m'a vraiment impressionné. Bon, le comportement, ça va. C'est sûr que tu démarres le véhicule, c'est un 6-cylindres en ligne, turbo compressé avec hybridation et ça sonne pas comme un V8, là, c'est bien évident. Non. Mais il y a quand même une belle souplesse et je te dirais que c'est la première Mercedes que je conduis depuis des années qui a une instantanéité de réaction à l'accélérateur comme jamais j'ai vu.
Pas de délai du potentiel.
Il n'y en a aucun.
Donc, on aurait réglé le problème.
Bien, on l'a réglé. Par le fait qu'il y a un 6-cylindres en ligne...
Et l'hybridation.
Ben c'est ça. Ouais. C'est l'électrification du véhicule qui fait que tu réponds tout de suite. Parce que tu l'entends en plus. C'est que le véhicule, tu appuies, il réagit, puis après ça, tu entends le moteur à essence réagir. Donc, c'est évident que c'est l'électricité qui vient d'abord jouer un rôle là-dedans.
Mais tant mieux.
Puis ça améliore le plaisir au volant. Mais c'est sûr que c'est une voiture... m'as-tu vu? Puis tu peux obtenir cette même motorisation-là dans une voiture qui est beaucoup plus sobre et qui va te donner le même niveau de performance ou à peu près. Un truc qui est intéressant, les jantes sont magnifiques sur cette auto-là. Il y a un design de
jantes. Ça ressemble à rien d'autre.
Mais le design de l'auto, je suis pas encore certain. Puis je suis surtout pas certain de comment la positionner. Est-ce que je compare ça avec une RS7?
Oui, c'est une bonne question.
Tu sais, C'est très
c'est difficile. C'est un peu unique comme produit. C'est ça, comme
exactement.
Produit,
on n'est pas dans un territoire de Panamera, peut-être.
Mais pas loin.
Mais c'est ça. Ouais. On est vraiment à la croisée des chemins, mais avec un design qui, moi, ne m'allume pas particulièrement.